Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour. Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Toujours sur Radio Canu, il est 19h01 et voilà, c'est les infos. On est mercredi 19 mai. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui?
Et bien, après quelques brèves, on aura une interview de quelqu'un d'une coordinatrice du mouvement BDS, le mouvement Boycott des Investissements Sanctions, qui nous parlera de ce qui se passe en ce moment à Gaza.
Ensuite, on reviendra sur la Colombie, puisque la mobilisation tient toujours et la répression policière se trouve pour allier les riches colombiens et colombiennes.
Puis on se penchera sur cette question. Les migrants et migrantes sont-ils et elles otages d'une brouille diplomatique entre l'Espagne et le Maroc?
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info.
Ça alors, travaillais-tu, paraît-il? Une étude de l'Organisation internationale du travail et de l'OMS redécouvre que les journées de travail à rallonge nuisent à la santé. Selon cette étude, au-delà de 55 heures par semaine, le risque de développer une maladie cardiaque ou d'être victime d'un accident vasculaire cérébral augmente considérablement. Alors, dans le même temps, l'OIT et l'OMS constatent que le nombre de personnes qui travaillent au-delà du raisonnable, donc 55 heures, c'est quand même un peu trop, hein,
ouais.
C'est vraiment au-delà du raisonnable. C'est un nombre qui est, donc le nombre de personnes qui travaillent au-delà de 55 heures, c'est un nombre qui est en augmentation sur la planète, ce qui a causé 745 000 décès de travailleurs en 2016, soit 29% de plus qu'en l'an 2000. Voilà, c'est pas les machines qui nous aident, en fait, finalement.
Canu Info du mercredi.
La contrôleuse des libertés, des lieux et de détention, qui est Dominique Simoneau, cette année a rendu publique la situation d'un centre de détention en Charente-Maritime, qui est un centre spécialisé pour personnes âgées condamnées à de longues peines et en lit médicalisé et en fauteuil. Donc on pense que c'est des gens qui vont être particulièrement suivis de soins. Il n'en est rien, puisque l'hygiène est déplorable. Les détenus sont enfermés jour et nuit, laissés à l'abandon sans que le ménage ne soit fait dans leur cellule. Donc c'est des personnes pas du tout autonomes et qui sont complètement livrées à elles-mêmes. Celles qui sont incapables de se nourrir seules, parmi ceux-là, certains sont en dénutrition. Donc en fait, voilà, c'est un manque de respect total, puisqu'au-delà, donc il y a probablement un manque de personnel dans ce qu'elle signale dans le rapport. C'est aussi, encore une fois, un mépris global des administrations pénitentiaires et de l'État à l'égard des détenus. Alors, on peut profiter de l'occasion pour rappeler que dimanche 30 mai se tiendra un rassemblement contre les violences pénitentiaires, justement, et pour la dignité et le respect des détenus. À Lyon, ce sera à 14h, place Bellecour, à l'initiative de l'association IDIR, Espoir et Solidarité. Donc, pour rappeler rapidement, en septembre 2020, IDIR était morte de façon très suspecte au Mitard, qui est le quartier disciplinaire à la maison d'arrêt de Corba. Depuis, sa famille se mobilise pour obtenir vérité et justice. L'association IDIR Espoir et Solidarité dénonce les mitards. Il faut fermer les couloirs de la mort, donc avec pétition, manifestation. Elle se mobilise donc le 30 mai en soutien avec d'autres contre les violences d'État policières et pénitentiaires. Voilà, avec par exemple le réseau Entraide Vérité et Justice. Donc c'est un appel partout en France et ce sera à 14h place Bellecour pour la manif de Lyon.
Canu Info.
Et voilà, écoutez, on est bien content de ne pas habiter à Gaza, vu que si on habite à Gaza, non seulement on se prend des missiles sur la gueule, mais comme en plus il n'y a pas moyen de sortir de cette toute petite bande de terre, il n'y a vraiment aucun moyen de fuir la situation. Alors, plutôt que de faire le détail des infos du jour qui ressemblent un peu à celles d'hier et vraisemblablement à celles de demain, on a essayé de comprendre, de prendre un petit pas de recul et on est allé interviewer Monira, qui est coordinatrice de la campagne BDS pour boycott des investissements sanctions. Elle nous explique à la fin de cette interview de quoi il s'agit plus précisément, mais elle commence par nous raconter ce qui se passe là tout de suite du côté entre Jérusalem et Gaza. Monira, tu es coordinatrice de la campagne BDS et à ce titre, je vais te poser un certain nombre de questions sur ce qui se passe en ce moment entre Jérusalem et Gaza. Et la première question, c'est là, on avait l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose depuis un moment. Et pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, ça part en vrille ?
Alors, bonjour. Effectivement, on avait l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose. Mais concrètement, en Palestine, il se passait plein de choses. En fait, donc faut revenir aux origines. Hein, l'État d'Israël est créé en 1948, ce qui occasionne pour les Palestiniens la Nakba. Donc 750 000 Palestiniens qui sont chassés de leurs terres, de leurs maisons, et des gens qui sont repoussés hors des frontières et qui se retrouvent dans des camps de réfugiés, soit dans les pays arabes alentours, soit il y a des réfugiés palestiniens qui sont dans Gaza aussi, qui ne viennent pas de Gaza à l'origine et qui se retrouvent réfugiés à l'intérieur de Gaza. Donc il faut savoir que le relatif calme qu'on a l'impression de percevoir de la Palestine, en fait, c'est pas vraiment le calme. Il y a un blocus sur Gaza qui est catastrophique pour la population palestinienne qui est enfermée. Le blocus, il est total, il est terrestre, aérien, maritime, donc ils n'ont aucune possibilité de sortir ou entrer dans Gaza sans la supervision d'Israël. Il y a un unique accès, un unique point de passage sécurisé tenu par Israël. Il y en a un de l'autre côté vers l'Égypte qui est fermé par l'Égypte, donc il y a un blocus d'Israël avec la collaboration de l'Égypte. Donc déjà ça c'est la situation dans Gaza. Ensuite dans le reste de la Palestine, les Palestiniens ils disent que la Nakba elle ne s'est jamais arrêtée en fait. Ils ont continué, la colonisation elle a continué. Ils ont continué à être expropriés, à devoir quitter leur maison, ils doivent lutter pour garder leurs terres. Chaque année, il y a des terres qui sont confisquées tout un ensemble de lois israéliennes qui font qu'ils peuvent confisquer des terres. C'est-à-dire qu'ils empêchent les Palestiniens d'accéder à leurs terres pour les cultiver. Et ils ont une loi qui dit que quand une terre elle a pas été cultivée pendant 3 ans, elle peut être prise par Israël. Donc en fait, il y a une bataille pour d'un côté les Palestiniens qui essayent de cultiver leurs terres et de l'autre côté Israël qui essaye de les en empêcher et puis de prendre leurs terres de façon légale entre guillemets. À la suite de ça, donc en fait, il faut savoir qu'il y a une oppression qui est perpétuelle. Il y a eu encore un rapport, il y a eu plusieurs rapports. Il y a eu un rapport de l'ONU en 2017. Là, il y a eu un rapport de Human Rights Watch qui dit que Israël pratique l'apartheid à l'encontre de la population palestinienne. Donc, une situation d'apartheid au quotidien, c'est comme une situation de discrimination, mais inscrite dans la loi institutionnelle, voilà. Et du coup, en gros, le reste du temps, c'était déjà pas calme pour les Palestiniens. Et ça fait quelques semaines que des groupes d'extrême droite appellent à des pogroms, manifestent dans la rue au cri de mort aux Arabes. Ça se passe à Jérusalem depuis plusieurs semaines. Et puis, il y a eu aussi volonté d'expulser des familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Et en fait, il y a l'armée israélienne, la police israélienne qui protège les colons pendant qu'ils viennent s'approprier la maison d'une famille palestinienne. Et à partir de là, il y a eu une solidarité dans toute la Palestine, en fait, avec ces familles qui allaient être expulsées de leur maison familiale. Du coup,
ça se passe dans Jérusalem.
Donc ça se passe dans Jérusalem, et la solidarité, elle s'est exprimée dans les autres villes de Palestine, et même à l'intérieur de Gaza. Et ça, c'est super important, parce que du coup, Israël a toujours essayé de morceler les Palestiniens, d'éclater la population palestinienne avec des Gazaouis qui peuvent pas du tout communiquer avec les habitants de la Cisjordanie. En Cisjordanie, trois régimes différents avec des zones A, B, C, avec des statuts différents. Et la population de Jérusalem qui a encore une position particulière. Donc toute cette tentative d'éclater la société palestinienne et de la désunir, du coup finalement là elle a éclaté puisque les Palestiniens ils se sont montrés solidaires des Jérusalemites de Sheikh Jarrah. Donc en gros voilà ce qui s'est passé les dernières semaines. Ensuite du coup il y a eu des manifestations dans toute la Palestine pour protester et il y a eu une répression terrible de la part de l'État d'Israël. Il y a eu aussi chaque Ramadan, il y a des alors la fin du Ramadan, il y a une retraite spirituelle qui est faite souvent à la grande mosquée Al-Aqsa. Et pendant cette retraite spirituelle, il y a des Palestiniens du coup qui restent à l'intérieur de la mosquée pendant plusieurs jours et qui vivent leur vie spirituelle en fait. Et à ce moment-là, ça fait pas mal d'années que Israël à ce moment-là provoque. Et là, notamment dans la dernière dizaine du Ramadan, Israël avait interdit l'accès à la porte de Damas aux Palestiniens. Et en fait, c'est l'endroit où ils se réunissaient le soir. Voilà. Donc c'était aussi une volonté de toucher à ce que les Palestiniens ont plus sacré et de casser leur vie sociale, quoi. Et du coup, il y a eu aussi une révolte des Palestiniens par rapport à ça. Ils n'ont pas voulu se faire chasser de la porte de Damas et ils sont venus pour dire que voilà qu'ils avaient le droit d'être là. Et il y a eu une intervention militaire à l'intérieur même de la mosquée, alors que les gens à l'intérieur de la mosquée sont pas armés, ils prient. Donc il y a eu quand même tout ça avant qu'on entende parler des roquettes sur Israël et des bombardements d'Israël sur la bande de Gaza.
Est-ce qu'on pense que c'est toutes ces provocations pour le coup du côté de la part de Israël peuvent avoir un lien avec les soucis politiques et électoraux de Netanyahou?
Alors évidemment, c'est à peu près comme dans tous les États, quand il y a des problèmes où le pouvoir est déstabilisé parce qu'il n'est pas légitime, parce que les élections elles n'ont pas été correctes, parce qu'il y a des affaires de corruption, on se trouve un ennemi et voilà, c'est toujours ce côté rassemblement de la nation contre l'ennemi, etc. Et du coup, Israël l'utilise plus que quiconque, mais bon, c'est utilisé par plein d'autres pays dans le monde. Mais effectivement, ça leur sert à réunifier un peu les Israéliens contre les Palestiniens. Il y a quand même quelques Israéliens qui ont manifesté aux côtés des Palestiniens, qui n'étaient pas d'accord avec cette politique et tout. Mais quand même, donc c'est un État avec un gouvernement d'extrême droite et quand même l'opinion publique elle est quand même très raciste en Israël et comme c'est en train d'arriver dans nos pays en Europe.
Ouais, bien sûr. Avec tout ça, la situation maintenant, tu pourrais nous l'expliquer comment, nous la décrire comment?
Alors. La situation, en fait, là je raconte ce qui s'est passé les dernières semaines, mais en fait il faut savoir que c'est une continuité en fait. Ce qui s'est passé les dernières semaines, ça se passe depuis très longtemps. fois, les Palestiniens se sont moins rebellés parce que ils espéraient une solution de paix, ils espéraient une autorité palestinienne qui pouvait peut-être faire quelque chose et tout. Et finalement, ce que les Palestiniens disent, en fait, c'est que là, tous les jeunes qui ont manifesté dans les rues en Palestine, c'est des jeunes qui sont nés pendant la deuxième intifada. Donc eux, ils ont aucun espoir de paix, en fait. Ils ont aucune vision d'avenir. Ils sont nés dans cette situation, et la situation, elle s'est toujours empirée. Donc en fait, cette révolte, elle est spontanée, et à la fois, les Palestiniens, ils sont très conscients qu'ils vivent une injustice, mais qui est très longue, en fait. Et du coup, finalement, ils sont dans un état d'esprit où ils ont plus peur parce qu'ils n'ont pas grand chose à perdre, en fait. Du coup, la situation, elle est pas, c'est pas une situation exceptionnelle, en fait. Depuis la Nakba de 1948, la volonté de l'État d'Israël, c'est ça, c'est de coloniser le plus de terres possible, de repousser les Palestiniens hors les murs et de grignoter le maximum de terres. Il y a eu beaucoup d'avancements de la colonisation les dernières années, notamment sous Trump, qui a violé le statut international de la ville de Jérusalem en installant son ambassade. Il y a eu en 2018 une loi qui a été votée par la Knesset, donc le Parlement israélien, qui est la loi de l'État-nation du peuple juif. Donc en fait, si tu veux, l'apartheid, il est institutionnalisé, en fait. Le pays se déclare État-nation du peuple juif, c'est-à-dire que les non-juifs n'ont pas les mêmes droits dans cet État que les juifs. Donc il y a vraiment une accentuation. Et devant l'absence de pression de la communauté internationale, bah, du coup, les choses, elles se font. Hein. Je veux dire, la situation dans Gaza, par exemple, les dirigeants israéliens, ils ont appelé ça tondre la pelouse. Tondre la pelouse, c'est étouffer la colère des Palestiniens. Donc, quand on vit une injustice depuis dans la Nakba, c'était il y a 73 ans, quand on vit 73 ans d'injustice, forcément, les Palestiniens, ils sont révoltés par la situation dans laquelle ils sont. Et en fait, tous les 2, 3, 4 ans, il y a une opération militaire qui s'appelle Tondre la pelouse. Alors, à chaque fois, ils ont des noms différents, et c'est fait pour étouffer la révolte palestinienne. Et c'est ce qu'ils sont en train de vivre dans Gaza, encore une fois. Mais il faut savoir que des bombardements dans Gaza, il y en a eu en 2009, en 2012, en 2014, cette année. Donc il y a vraiment une répression qui est féroce dans la bande de Gaza. Il y avait eu en 2018 des marches du retour, donc des marches de Palestiniens qui voulaient retourner dans la Palestine historique qui n'est pas sous blocus, et qui faisaient des marches tous les vendredis. Et là, il y avait des directives claires de l'armée israélienne de leur tirer dessus, de leur tirer dans les jambes et puis de les blesser à vie, quoi. Donc voilà, c'est assez régulier. Là, il y a plus de 200 morts déjà dans la bande de Gaza, dont plus de 60 enfants. À chaque bombardement, ils avaient des cibles précises. Par exemple, pendant le bombardement Plan Durci en 2009, ils ont vraiment visé beaucoup d'infrastructures. En 2014, ils ont visé aussi des infrastructures, mais vraiment les centrales électriques, le traitement de l'eau, les hôpitaux. Donc c'est vraiment une volonté de mise à mort de toute la population de Gaza. Et à chaque fois, c'est des bilans extrêmement lourds. Et là, cette fois-ci, on voit qu'il y a vraiment une tentative il y a vraiment une offensive contre les journalistes. Et il y a eu un bombardement d'un immeuble de presse, en fait. Donc il y a vraiment une volonté aussi de faire taire les journalistes, quoi.
صباح الخير يا ولاد عمومنا فضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعد تقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفي
ثقافية عربية بتضل عربية حضرتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شيء إلنا بدنا إياه مرح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلة مش إلهن ما خصن فيه هلدونا بلتبس لبس هالقر يكفيهن طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف كونوا بشر جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لأننا وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفي عربي بدل عربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكثر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خليني نعليها لفوق بالسما أنا هجاه ديك العرب الثاني بخص غزة الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شاد يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفي لأنها وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفية الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بدل عربي
think it's a trend, a fashion statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The kafia ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable beneath the bandana. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falestini. Does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza. And have a
BDS. Vous n'aimez pas bien le terme qu'on entend partout, par ailleurs dans les médias, de conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi?
Alors, oui, en fait, conflit israélo-palestinien, ça laisserait sous-entendre qu'il y a deux camps égaux qui s'affrontent et qui sont équivalents. Et en fait, quand on voit la situation, c'est pas du tout le cas. Hein. Il y a un pays, une puissance occupante en fait, qui occupe la Palestine. Et il y a des Palestiniens qui résistent, mais qui n'ont pas vraiment, qui n'ont pas d'État déjà, et qui n'ont pas vraiment de représentation. Déjà, les représentations politiques qu'ils avaient encore il y a quelques temps, et c'est des gens qui ont été choisis par Israël quand même, qu'ils ont mis à leur place, et dont ils se sont servis depuis les accords d'Oslo pour réorganiser l'occupation et comme juste une force qui collabore en fait. Donc les Palestiniens dans tout ça, ils essayent de résister à l'occupation et ils résistent à l'occupation chaque jour hein, de façon vraiment digne en fait. Il faut le rappeler, les Palestiniens c'est pas voilà, il y a quand même une résistance qui est très courageuse et du coup oui, on réfute ce terme de conflit israélo-palestinien parce que ça met dos à dos l'occupant, l'occupé et c'est vraiment injuste et ça permet pas de comprendre vraiment la situation.
Dans la situation actuelle là, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que militante, militant ici? Qu'est-ce qui te semble utile? Et c'est peut-être l'occasion de nous expliquer ce que c'est que BDS.
Ouais. Alors dans l'immédiat, il y a des rassemblements dans, dans toutes les villes de France, enfin dans toutes les villes du monde même, j'ai envie de dire. Il y a des rassemblements vraiment partout. Donc déjà, déjà manifester physiquement son soutien aux Palestiniens, c'est très important. Ça va pas faire changer les positions diplomatiques de la France qui sont scandaleuses. Par contre, ça donne aussi de la force aux Palestiniens, parce que les Palestiniens, quand ils voient les images des manifestations qu'il y a en France et tout, ils se sentent soutenus aussi dans leur combat à eux, donc c'est très important. Après, faut être à l'écoute aussi des Palestiniens, parce que parfois ils lancent des initiatives et ils nous demandent de relayer, de les suivre et tout. Notamment, hier, il y avait une initiative, il y a eu une grande grève générale en Palestine. Et du coup, les Palestiniens, ils demandaient d'être soutenus là-dedans. Donc, par exemple, en France, il y a eu un communiqué de solidaire du syndicat solidaire qui soutient la grève des Palestiniens. Il y a eu quelques actions symboliques en France de syndicats qui se sont mobilisés pour apporter leur soutien à la grève palestinienne. Donc, ça, c'est très important aussi. Et puis, les Palestiniens, en 2005, ils ont lancé la campagne BDS. Donc boycott des investissements, sanctions. Avant même que les organisations internationales et les ONG reconnaissent qu'il y avait une situation d'apartheid à l'encontre des Palestiniens, les Palestiniens eux-mêmes avaient conscience qu'ils vivaient une situation d'apartheid. Donc ils ont lancé une campagne similaire à celle qui a existé en Afrique du Sud pendant l'apartheid et qui appelle au boycott. Un boycott de celui qui impose cet apartheid, c'est-à-dire l'État d'Israël. Donc la campagne boycott des investissements sanctions, elle vise à appeler au boycott de l'État d'Israël, donc boycott économique, boycott culturel, universitaire, vraiment un boycott global de l'État d'Israël, boycott touristique, mais aussi on demande aux entreprises internationales de désinvestir d'Israël parce que il y a des violations du droit international, en fait, tout simplement. Et la troisième lettre du cycle de BDS, ces sanctions, on demande à nos États des sanctions diplomatiques et économiques contre Israël. Par exemple, il y a des accords économiques entre l'Union européenne et Israël, qui permet à Israël d'avoir des avantages économiques, et c'est pour ça que nous, en France, on a plein de produits israéliens, des produits alimentaires, notamment des avocats, des patates douces, des dattes, etc. C'est parce qu'ils ont cet avantage, en fait, économique, de pouvoir être considérés comme s'ils étaient dans l'Union européenne.
Si on veut vous rejoindre, c'est peut-être le moment, malheureusement, mais où vous avez le plus de chances de recruter.
Ouais, tout à fait. Alors, il suffit de prendre contact avec BDS France, hein. Il y a une adresse mail sur le site bdsfrance.org, il y a une adresse mail, qui est campagnebdsfrance@yahoo.fr, je crois, mais on peut le retrouver sur le site facilement. Et du coup, écrire, il y a aussi une carte sur le site où sont indiqués tous les comités BDS de France, donc et quelle adresse il faut contacter pour rejoindre. Et puis, si vous habitez dans un endroit où il n'y a pas de comité BDS, vous pouvez en créer un, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. BDS, dans nos rassemblements, là, les rassemblements de samedi, on en parle, on est présent, on rencontre les gens et tout. Notamment à Saint-Etienne, nous, par exemple, on fait beaucoup de formations BDS, donc il y en aura une le 30 mai, par exemple. Donc les gens, ils peuvent s'inscrire, ils peuvent venir à la formation, et ensuite, après la formation, ils peuvent choisir de s'investir un peu plus dans BDS, ou juste avoir les infos et s'en servir dans leur organisation, puisque l'appel BDS, il s'appuie quand même sur des organisations de la société civile palestinienne. Et l'appel BDS en France, il a été signé aussi par plein d'organisations, d'associations, etc. Et le but, c'est aussi qu'il y ait de nouvelles associations qui signent l'appel BDS, qui nous rejoignent, et de généraliser un peu ça, quoi.
Ok. Et puis, c'est ça, j'imagine qu'on peut aussi, dans tous les cas, vous rencontrer dans les manifs qui vont avoir lieu ces prochains jours.
Oui, tout à fait. On est présent dans les manifestations On est toujours enthousiaste de voir des nouvelles personnes arriver, s'intéresser au sujet, etc. Donc, on est très content de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, en fait, à Lyon, la manif, c'est à samedi 22 à 15h à Bellecour. Et à Saint-Étienne, c'est pareil, samedi 22 à 15h, place Chavanel.
Onira, je te remercie et je te souhaite bonne continuation.
Eh bien, merci à toi.
Et voilà, si tu veux nous en dire deux mots en conclusion.
Non.
Ben non.
Manif samedi, Lyon ou Saint-Étienne, à 15h.
Canu Info.
Alors, on va revenir sur la mobilisation en Colombie, puisque depuis 3 semaines, les Colombiens colombiennes manifestent sans discontinuer. On en parlait il y a 15 jours, et une nouvelle journée de mobilisation était prévue aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure. Alors, depuis le 28 avril, pas un jour ne passe sans manifestation et heurts avec la police. Au moins 51 personnes sont mortes pendant les rassemblements, certaines lors de tirs à balles réelles des forces de l'ordre. Tout est parti, donc le 28 avril, du rejet de la réforme fiscale, qui a été rapidement abandonnée au bout de quelques jours. Mais à présent, le gouvernement fait face à un mouvement de contestation beaucoup plus large, et notamment issu de ces violences policières à répétition. Alors dimanche, ont débuté des négociations entre le gouvernement et le comité national de grève, pour l'instant sans grand résultat, d'autant plus qu'une bonne partie des manifestants manifestantes, notamment les jeunes, ne se sentent pas représentés par ce comité de grève. Le comité national de grève demande, entre autres, une démilitarisation de la police, le retrait des opérations de maintien de l'ordre de l'unité spéciale anti-émeute, ESMAD, donc qui est, l'unité qui a fait pas mal de dégâts. C'est également ce que condamne l'ONU, évidemment, c'est resté aussi lettre morte, les condamnations de l'ONU étant ce qu'elles sont. Alors, au-delà du problème des violences policières, il y a des revendications sociales, comme un meilleur accès à l'éducation, à la santé. Puisque la Colombie, comme on le disait déjà un petit peu il y a quelques semaines, la Colombie, c'est avec le Chili et le Brésil un des pays les plus inégalitaires d'Amérique latine, où le Covid-19 a fait pas mal de dégâts. Plus de 40% de la population se trouve aussi sous le seuil de pauvreté. Alors la mobilisation d'aujourd'hui a été à l'image des précédentes, c'est-à-dire très suivie et aussi très réprimée. À Cali, une ville où ont déjà été tués de nombreuses manifestantes et manifestantes, de nouveaux manifestants précaires et amérindiens ont été confrontés à la violence de civils armés cette fois, et la violence de la police habituelle. Le Guardian nous raconte, un convoi de bus est descendu de la chaîne de montagnes la plus à l'ouest de la Colombie, s'est dirigé vers la ville de Cali où des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre les inégalités de richesse dans le pays. Mais alors que le cortège approche de la zone prospère du sud de Cali, il atteint un barrage routier dressé par des hommes en civil, vraisemblablement originaires des quartiers riches qui sont à proximité. Alors, un chef de la communauté autochtone Nasa, donc Robert Molina, déclare « Des hommes en chemise blanche tiraient sur nous et les coups de feu n'arrêtaient pas d'arriver. Ils tiraient depuis des camions, des 4x4 blindés, directement par les fenêtres des immeubles. Les images de l'incident qui ont été enregistrées et partagées par les victimes ou par les spectateurs, les témoins quoi, autour, sont assez éloquentes puisqu'on voit par exemple un homme en civil aussi tiré au pistolet sur tout un groupe de manifestants autochtones. Dans une autre vidéo, il y a un groupe d'hommes pareil en civil qui portent des armes automatiques le bilan de tout ça, c'est qu'au moins 10 personnes ont été blessées lors de l'attaque et des incidents similaires ont été signalés dans toute la ville et pas seulement à cet endroit-là. Pour revenir un peu en arrière, lundi soir, alors que des explosions et de la fumée envahissaient les rues de Yumbo, une ville qui est en périphérie de Cali, de nouveaux rapports abondaient de civils qui s'armaient pour briser les barricades des manifestants. Pendant ce temps, un médecin de la ville a été démis de ses fonctions après avoir appelé des groupes d'autodéfense à braver un millier d'Indiens. C'est vraiment guerre des riches, quoi. Un après-midi de la semaine dernière, des habitants du quartier riche d'El Peñon ont rempli les trottoirs d'une avenue bondée d'arbres. qui bordent la rivière de la ville. Donc ils ont barricadé leur quartier, en fait. Alors, tout ça, à côté des vastes complexes remplis de piscines, des gymnases de sécurité privée, tout ça, les foules ont applaudi, donc les foules d'habitants de ces quartiers riches ont applaudi un cortège d'agents de l'unité anti-émeute de la police dont on parlait tout à l'heure. Cette même unité qui a été lourdement blâmée pour une grande partie de ces violences policières depuis le début des manifestations. Alors, le souvenir des FARC fait frémir dans les quartiers riches et selon Carlos González, professeur de sociologie à l'Universidad del Valle de Cali, une grande partie de l'establishment colombien ne comprend pas que ces appels au changement viennent des gens dans les rues des villes et non d'un groupe de guérilleros armés dans les campagnes. La classe politique, avec certains secteurs de la bourgeoisie et de la direction militaire, ne comprend pas vraiment ça. C'est pourquoi les civils prennent les armes contre les civils. Nous sommes passés de la collaboration de l'armée avec les paramilitaires civils pendant la guerre à des citoyens qui sont maintenant devenus des parapoliciers dans les villes. Voilà, alors il y a de nouveaux appels à manifestation dans les jours qui viennent à suivre. Pour l'instant, en tout cas, elle continue d'être très suivie.
Canu Info. Du mercredi.
Alors, vous n'êtes certainement pas passé à côté de ces images de personnes essayant de rejoindre les côtes de Ceuta. Ceuta, on le rappelle, c'est l'enclave espagnole au nord du Maroc, rejoignant ces côtes donc à la nage. Avec des gros chiffres en une, 8000 migrants débarquent à Ceuta, afflux de migrants, et Libé qui titre même migrants, afflux tendu entre Ceuta et Melilla, sachant qu'un témoignage dit qu'à Melilla, il se passe pas grand-chose pour l'instant. Il est indéniable qu'il s'agit d'un passage massif réussi d'une partie de la jeunesse marocaine se retrouvant confrontée à deux choix, continuer sa vie dans une pauvreté quasi garantie par son gouvernement ou tenter sa chance ailleurs avec comme point de départ ce petit bout de territoire qui jouxte leur pays. Alors les tons des articles est un mélange entre des alarmistes un peu racistes, hein, disons-le, qui agitent le drapeau du déferlement migratoire, déferlement pourtant pour l'instant contenu sur le territoire africain. Et s'ils tentent d'expliquer, s'il y en a d'autres qui tentent d'expliquer ces soudains passages en force, ils ont une petite explication qui serait une brouille diplomatique entre l'Espagne qui a accueilli le chef indépendantiste sahraoui du Front Polisario, mouvement politique qui revendique l'indépendance du Sahara occidental au sud du Maroc. Accueil qui aurait rendu fou de rage le gouvernement marocain qui aurait donc décidé de ne plus vraiment contrôler sa frontière. Ou tout de moins de le faire avec beaucoup moins de zèle qu'elle le faisait jusqu'à maintenant. Ce qui par conséquent déclencha la colère du vice-président européen qui déclara, je cite, « Ceuta, c'est l'Europe, cette frontière est une frontière européenne et ce qui se passe là-bas n'est pas le problème de Madrid, c'est le problème de tous et que l'Europe ne se laissera pas intimider ». Bon, on aurait aimé que cette colère et indignation ne soient pas conditionnées à un simple bout de frontière et bout de territoire qui... Mais qu'effectivement le sort d'une grande partie de la jeunesse du pays, ici le Maroc, soit effectivement l'affaire de tous et pas seulement un enjeu de tractation entre deux pays. Or, très peu de médias font un état des lieux de l'avenir de la jeunesse marocaine. S'interroger sur ce qui pousse les gens à s'engouffrer dans une brèche diplomatique pour essayer quelque chose ailleurs, très peu l'ont fait. Il faut lire un article de RFI pour en avoir un tout petit aperçu. Aperçu qui s'éloigne des images et descriptions de déploiements militaires aux frontières. On y apprend que des jeunes, voire très jeunes, une fois la réussite de la traversée, se retrouvent dans des parcs de la ville un peu apeurés par ce qu'ils passent, un peu sans trop comprendre là où ils ont atterri. Si beaucoup d'habitants et de médias espagnols parlent d'invasion à Ceuta, beaucoup d'habitants et d'habitantes décident aussi de venir en aide à celles et ceux qu'ils voient en galère en bas de chez eux. D'après des observateurs sur place, environ, alors c'est un peu des chiffres grosso modo, comme entre 30 et 60% sont mineurs, 15%, 10% sont des familles. Une grande majorité viennent des classes populaires, voire des classes moyennes, donc c'est le truc où effectivement le Maroc c'est un pays très jeune et les gens qui essayent de se barrer du Maroc pour tenter quelque chose ailleurs, c'est quand même majoritairement la jeunesse. Pour le fondateur de l'ONG Pro-Migrant Omar Rafiwak, cette histoire de tension diplomatique ne peut pas être la seule raison. Il faut savoir que dans cette région, les autorités ont décidé de mettre fin à la contrebande située dans la zone frontalière de Ceuta. Contrebande de survie faisant vivre une bonne partie de la région. Pour Omar, si la contrebande n'est pas quelque chose de désirable pour son pays, le gouvernement ne peut pas fermer d'un côté cette rentrée d'argent nécessaire pour les familles, et de l'autre, ne rien proposer comme alternative sérieuse à la population. Depuis la pandémie, la situation générale et économique s'est très largement dégradée. Les gens ont protesté, mais n'ont reçu que des coups de matraque en échange. Les gens sont poussés à bout, désespérés de leur situation, et ne peuvent que tenter quelque chose de mieux ailleurs. Se cantonner à voir ces traversées comme un simple laisser-aller des autorités marocaines, c'est d'une part dédouaner ces dernières de leur gestion sociale du pays, et c'est aussi du côté de l'Europe donner du crédit à un durcissement des contrôles frontaliers qui ne peut être que le pendant armé du « on ne se laissera pas intimider » brandi par l'Union européenne, qui est incapable de voir autrement que comme une agression des personnes voulant débarquer sur ses côtes. Et ce qu'a du info touche à sa fin. Et oui, c'est déjà... Alors, on a fini avec 20 minutes d'avance, et on vous laissera avec... soit 20 minutes de bande continue, soit vous retrouverez des noirs, mais visiblement, je ne pense pas. Donc, a priori, ce sera peut-être plus de bande continue que ça.
Voilà, et à la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.